Oui, alors voilà, écoute Daniel, ce soir là, on vient de regarder, je suis avec 20 Marseillaises et Marseillais de folie, on est dans les Alpes, on vient de regarder le match et on a vu à 3 reprises le portrait d'un président qui s'appellerait Sarkozy, et ça m'a fait la honte, et on a gagné, là oui la France elle est belle, mais Sarkozy j'en veux pas, alors yéba sur lui, et je veux une aïoli de folie, alors parce que Marseille on est contre Sarkozy, alors Marseille on est pour la France, on est pour l'équipe des Bleus, et on a gagné. Oh, tu les entends, Daniel, comme ils sont beaux. Allez, aïe, sur nous tous. Ciao.
Bonjour à tous les auditeurs de France Inter. Sachez que depuis 2 jours déjà, c'est-à-dire depuis le 8, plus d'une centaine de militants contre les organismes génétiquement manipulés, les chimères génétiquement manipulées, plus d'une centaine de militants sont en train de marcher de Chartres jusqu'à Paris. Ils mettront en 10 jours pour arriver. Et M. Delanoë nous a permis de faire que l'arrivée se fasse esplanade de l'hôtel de ville le 13 octobre entre midi et 13h30. Entre midi et 13h30, il y aura un débat, il y aura une conférence de presse et on expliquera pourquoi nous demandons le moratoire sur les OGM. Et pourquoi nous sommes obligés de faire ça, parce que malheureusement, disons-le, vu les tergiversations des membres du gouvernement, on n'a plus très confiance dans le fait que le Grenelle nous apporte ce moratoire. Donc le problème est simple, venez nombreux pour nous soutenir, c'est samedi 13 octobre devant l'esplanade de l'hôtel de ville. Je suis papy écolo en colère, Gérard. Merci, salut Daniel et merci encore.
Salut Daniel Mermet, salut les auditeurs. Nous aussi on fait du camping. France Télécom Alès, on veut nous virer. Alors on a planté nos tentes devant l'agence commerciale aujourd'hui à Alès. Alors on appelle tous les gardois à venir nous rejoindre et nous soutenir. Je rappelle qu'à France Télécom, il y a 22 000 suppressions d'emplois. Et le premier trimestre, ils ont fait 4 milliards d'euros de bénéfices. Cherchez l'erreur. Salut.
Bonjour, je vous appelle pour vous refiler un renseignement généreux. Donc, le nombre des invités politiques reçus dans les émissions matinales de France Inter, RTL, Europe 1 et RMC entre le 6 septembre 2006 et le 21 septembre 2007 s'élevait à 792. Parmi eux, la proportion de partisans du oui au référendum sur la Constitution européenne était de 78,28%. C'était un petit renseignement généreux pour tirer mon chapeau aux défenseurs de la démocratie sur nos grandes ondes. Merci, salut.
Oui, Daniel Mermet, bonjour. Je ne suis pas totalement de ton bord, mais je t'aime. Et tes émissions de jeudi, de vendredi et celles d'aujourd'hui font que, alors que c'est mon anniversaire, j'ai 58 ans aujourd'hui, et tout à coup j'ai 30 ans de moins, et je suis prêt à reprendre le combat que j'ai lâchement délaissé pendant 25 ans, pendant 30 ans. Devant tout ce qu'on voit, ces patrons voyous, ces dirigeants voyous, je dis « El pueblo unido jamás será vencido ».
Bonjour Daniel, ici Daniel, avocat à Saumur. Je t'appelle pour te dire que la réforme de la carte judiciaire programme la suppression de nos tribunaux locaux. Nous appelons à manifester contre cette mesure, le mercredi 10 octobre à 15h, devant le palais de justice de Saumur. Un cortège funèbre traversera la ville. Ce serait bien que tes auditeurs et ton équipe se joignent à nous, afin de nous soutenir. D'autant que ce n'est qu'un début. Allez, bisous, au revoir.
Bravo pour l'émission sur le Tché. Quelle belle leçon de courage et de résistance. Ce qui m'amène à penser, à vous tous les jeunes, devant ce capitalisme qui nous ronge, car où on se soumet, où on lutte, allez-vous laisser partir les conquêtes sociales que nous avons si douloureusement acquises, nous les anciens. J'ai 87 ans. J'ai toujours envie de lutter, de résister et de me battre. Courage à tous. Une AMG.
Ouais, bonjour à toute l'équipe. C'est un coup de gueule que je voudrais passer. Je viens de lire là dans le journal que TF1 vient d'augmenter le prix du passage de publicité pendant le match de la demi-finale de la Coupe du Monde de rugby France-Angleterre à 150 000 euros les 30 secondes. Je rêve. Je vais regarder les entreprises qui passent des passages à 150 000 euros les 30 secondes. Quand on connaît le prix d'un spot, après payer toute la technique, payer le spot, et en plus après payer les passages, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il va y en avoir plusieurs. Mais putain, toutes ces entreprises qui se font du blé, on parle de chômage, on parle de précarité, mais toutes ces entreprises-là qui dépensent des sommes hallucinantes de spots de publicitaires sur des chaînes comme ça, mais il faut aller les voir, il faut se mettre devant leur porte et leur dire embaucher, je veux dire, c'est pas possible qu'elles foutent autant de fric, et il va où cet argent, et où est-ce qu'elles l'ont déjà, 150 000 euros les 30 secondes, vous imaginez? C'était vraiment un coup de gueule pour dire qu'on marche vraiment sur la tête et qu'il faut vraiment se soulever, quoi. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, au revoir.
Bonjour. Quand l'avion Airbus se crache, à qui vont les parachutes dorés? Cherchez l'erreur. C'est Eric Chevrier dans la Haute-Bléonne. À bientôt. Ciao.
Le scandale ADS va conduire un certain nombre de Français à chercher ce que c'est qu'un délit d'initié. Ils apprendront peut-être qu'il permet des gains vertigineux avec des risques très restreints. Et le mécanisme est très simple. Certains individus gravitent aux abords immédiats des centres de décision, informés avant les autres de l'événement qui va décupler le prix d'un terrain ou d'une action, ils vont savoir quand acheter et quand revendre pour réaliser d'importantes plus-values. Pour entrer dans ce cercle très privilégié, il n'est pas nécessaire d'avoir un départ de très gros capitaux, mais dîner avec le bon ministre au moment opportun est un bon investissement. Stendhal décrivait déjà cette manœuvre, voici plus de 150 ans, dans son roman « Lucien Levenne ». Elle est devenue un délit que depuis 1970, et cela n'est guère surprenant, puisque la bourse, dans son principe même, consiste dans le dépouillement des gens informés les derniers par les gens informés les premiers. Des poursuites sont engagées si l'opération est trop voyante, mais les initiés ne créeront jamais d'engorgement carcéral. Doit-on trouver des informations dans les dictionnaires? Les éditions du Petit Robert, antérieures à 1994, sont totalement silencieuses sur ce délit d'initié, pourtant officiellement connu depuis au moins 1970. Dans le Grand Robert sur CD-ROM, édition 1997, l'expression est encore inconnue, comme si, entre-temps, l'éditeur avait été racheté par un grand groupe concerné par cette forme particulière d'escroquerie. C'était Igor de Compiègne, et le texte sort du livre « Longuement subir, puis détruire » d'Igor Reitzmann, paru en 2002, un livre qui avait été refusé par tous les grands éditeurs.
Eh bien, délit d'initié, on va en parler aujourd'hui, du délit d'initié, mais pas seulement. Pas seulement, chers AMG, d'abord merci pour vos messages, ceux que vous laissez chaque jour dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis. Aujourd'hui, on a réfléchi, longuement réfléchi avec l'équipe de là-bas si j'y suis, et on s'est dit, il faut arrêter, on va aider le président de la République. On voit que M. Sarkozy, a en jugé par la couverture, la première page du quotidien Le Parisien, Sarkozy exige la vérité. Quelle vérité? Eh bien, la vérité dans l'affaire EADS. Et qu'est-ce qu'il veut savoir? Quelle est la vérité qu'il veut connaître? Eh bien, quelles ont été les responsabilités de l'État dans le délit d'initié qui a permis, comme vous le savez, des plus-values considérables pour un nombre très limité de personnes. Alors, on va l'aider aujourd'hui, on s'y est mis. Plutôt François Ruffin s'y est mis. Pourquoi François Ruffin? Parce que au mois de mars dernier, dans un journal qui s'appelle Fakir et qui paraît à Amiens et dont François Ruffin est l'auteur, il écrit à peu près tous les papiers dans ce journal, eh bien il avait parlé de ça, il avait parlé de ces affaires. Et puis ensuite, au mois de mai, dans le mensuel Le Monde Diplomatique, François Ruffin était revenu sur cette histoire, il l'avait développé, il en avait parlé au micro de la Basse. J'y suis plusieurs mois quand même avant que le Figaro, le 3 octobre dernier, sorte ce scoop concernant ce délit d'initié. Alors donc, pour aider le président de la République et pour peut-être aussi pour aider un certain nombre d'auditeurs à comprendre et à y voir un petit peu plus clair dans cette affaire, eh bien nous allons passer cette heure ensemble, l'affaire Lagardère pour les nuls, c'est ainsi que s'intitule un texte que vous pourrez trouver sur labas.org, la-bas.org, c'est un texte de François Ruffin que vous pourrez lire, imprimer si vous voulez, tout à fait tranquillement pour comprendre, crayon en main, à oreille reposée par la suite, ce qui va vous être mis dans les oreilles d'ici à 16h. Auparavant, encore d'autres messages, parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Basse, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Et l'histoire, il y a la rentrée de ce gouvernement qui laisse faire tous les licenciements.
Eh oui, salut, ta gueule, salut à tous les réfugiés, c'est Aram de Brest, on est en train de manifester ici contre la suppression de 514 emplois à Brest. Entreprise GMM menace de donc délocaliser son production en Chine. Et donc on est tous là, 2000 personnes à Brest, voilà. Allez, encore quelques
minutes. Comme ailleurs, interdiction des licenciements. Jadis comme ailleurs, interdiction des licenciements.
Allez, la lutte continue, la parole de Président. Ciao tout le monde.
Oui, bonjour Daniel, bonjour l'équipe de là-bas si j'y suis, c'est encore Cécile la Manouche. Ça y est, la France peut dormir tranquille, les Alsaciens aussi. Les familles de Rome sont dispersées, les caravanes ont été emportées, elles tombaient en morceaux la plupart. Les gens sont là, les enfants, les bébés, il y a des femmes, et leurs affaires sont par terre. Ils préparent leurs baluchons, ils ont fait leurs baluchons. Lâchement, je suis partie parce que je devais aller travailler et vivre ma petite vie. Mais je me sens pas bien. Mais la France est sauvée, qu'on se débarrasse de ces hordes de sauvages, n'est-ce pas, qui n'intéressent personne. Voilà, bravo, bravo la France. Salut.
Bonjour, ici le réseau d'éducation sans frontières 13, Marseille et sa région. Je voudrais annoncer, informer et appeler à une semaine de manifestation en solidarité et en soutien à Florimond Guimard. Florimond Guimard, enseignant, est convoqué devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 22 octobre pour s'être opposé à l'expulsion d'un parent d'élève il y a un an. Il est poursuivi, je cite, pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique en réunion avec arme par destination. L'arme par destination est sa voiture. Il a suivi la voiture de police qui a emmené le père de famille pour être expulsé. Voilà, il risque 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende et de perdre son poste de fonctionnaire. Donc, toute la semaine, du lundi 15 au lundi 22, il y aura des événements divers. Le plus important, c'est le samedi 20 octobre à 15h, Porte d'Aix. Manifestation unitaire à Marseille dans le cadre de la mobilisation nationale de l'UCIGE, c'est-à-dire l'UNI contre une immigration jetable. Et puis le lundi 22 à Aix-en-Provence, manifestation à midi, place de la Rotonde.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec François Ruffin. Les miettes illégales d'un festin très légal.
Flight number 2, arriving from New York. EADS, Sarkozy exige la vérité. C'est la une d'aujourd'hui en France, Le Parisien, qui reprend les mots du président de la République hier à Mâcon. J'irai jusqu'au bout de l'enquête pour savoir quelles ont été les responsabilités de l'État. Il hausse le ton, commente le journal.
François Ruffin, bonjour.
Bonjour.
Voilà. Alors, vous allez tout nous expliquer. Pourquoi vous allez tout nous expliquer ? Parce que vous êtes l'auteur d'un petit texte qu'on va mettre en ligne pour les auditeurs de la Basse Si J'y Suis et qui s'intitule « L'affaire Lagardère pour les nuls ». Voilà, donc cette heure va être consacrée à ceux qui n'y comprennent jamais rien, parmi lesquels je me compte. Alors, on a l'affaire EADS. Qu'est-ce que c'est qu'EADS ? Qu'est-ce que c'est qu'Airbus ? Qui sont ces personnages dont les colonnes de nos journaux sont remplies ?
Alors, EADS, c'est l'un des premiers groupes aéronautiques du monde, voire le premier groupe aéronautique en concurrence avec Boeing. Airbus, c'est sa principale filiale qui, donc, fabrique des avions. EADS résulte de deux fusions. D'abord, il y a eu une fusion entre Aérospatiale, une entreprise nationale, et Matra, qui était l'entreprise de Jean-Luc Lagardère. Puis une deuxième fusion entre Aérospatiale, Matra et Daimler-Chrysler. Daimler-Chrysler étant le conjoint allemand dans le groupe EADS. Donc voilà, ça c'est...
Donc au-dessus, on a EADS et Airbus est une des filiales de EADS.
C'est la principale filiale.
Ouais. Voilà, et EADS étant un groupe européen. Très bien. Alors, Airbus, ben, c'est l'A380. Et que vient faire là-dedans M. Lagardère, l'ami de notre président ?
Lagardère est l'un des actionnaires. Son groupe détenait 15% des parts du groupe EADS. Il en a revendu 7,5%. On verra dans quelles conditions. Mais il en a revendu la moitié de ses parts. Lui, à titre personnel, possède à peu près 0,9% du groupe EADS, à titre personnel. Mais en tant que groupe, il détenait 15%. Et il a revendu la moitié de ses parts.
Alors, il a revendu la moitié de ses parts. Dites-nous ce que c'est qu'un délit d'initié et y a-t-il eu ou non délit d'initié ?
Alors, un délit d'initié, c'est par exemple si on dit que la Basse Si J'y Suis était cotée en bourse. J'apprends, étant cadre de la Basse Si J'y Suis, j'apprends dans
supérieur, cadre supérieur.
Cadre supérieur de la Basse Si J'y Suis, j'apprends dans les couloirs de la maison de la radio que la Basse Si J'y Suis va repasser à 17h. Je me dis que ça va faire des auditeurs supplémentaires, de l'audimat, des profits supplémentaires pour la Basse Si J'y Suis. Donc, avant que l'information soit rendue publique, j'achète des titres en bourse de la Basse Si J'y Suis. Le titre bondit, donc du coup, je fais une plus-value immédiatement parce que je possède une information étant membre de l'entreprise ou bien étant dans l'appareil d'État, si une personne du CSA investissait également, je fais une plus-value immédiatement. Là, la plus-value...
C'est l'inverse.
Voilà, chez EADS, la plus-value, elle va se faire à l'inverse. C'est-à-dire que les dirigeants du groupe ont, dès novembre 2005, voire même auparavant, l'information comme quoi il y a des gros problèmes sur les câblages électriques de l'A380, qui va faire des retards dans la livraison des A380, qui va produire également des pénalités. Donc là, ils disposent très vraisemblablement de cette information. Et en mars 2006, au moment où l'action est quasiment à son sommet, tous les cadres de EADS décident de revendre leurs actions, dont Noël Forgeart. Et en avril 2006, le groupe Lagardère et le groupe Daimler-Chrysler décident eux aussi de revendre une partie de leurs actions.
Mais ça, les retards, tout le monde le savait.
C'est-à-dire, effectivement, à Blagnac, à côté de Toulouse, apparemment, les ingénieurs étaient au courant, les ouvriers étaient au courant, la patronne du bistrot de Blagnac était au courant. Donc là, si jamais les dirigeants du groupe EADS viennent dire qu'eux n'étaient pas au courant, alors que tous les ingénieurs, tous les ouvriers sont au courant, ça serait un peu...
Et c'est pourtant ce qu'a dit M. Lagardère.
Voilà. Deux mois après avoir revendu ses parts, il y a eu une annonce publique sur ses retards de l'A380, et qu'en une seule journée, le titre a perdu 26% de sa valeur. Donc voilà, ces 26%-là, ils ont Daimler-Chrysler et Lagardère ont pu les engranger. Quoi.
Mais reprenons un petit peu la chronologie de l'affaire. En novembre 2005, Lagardère et Daimler-Chrysler, actionnaires de EADS, informent Thierry Breton de leur intention de céder des titres EADS. Donc, ce n'est pas une affaire qui surgit comme ça brusquement.
Non, du tout. Je veux dire, la revente d'un capital aussi important, il faut voir que les plus-values dont on parle, là, c'est 890 millions de plus-values vraisemblablement pour le groupe Lagardère, 890 millions d'euros hein, de plus-values pour Daimler-Chrysler. Donc, on ne parle pas de peccadille. Donc, forcément, quand il y a, sur une industrie aussi importante que EADS, que Airbus, la revente de 7,5% du capital, on serait quand même très surpris que l'État n'en soit pas informé. On serait aussi très surpris que l'État ne soit pas informé des retards de livraison de l'A380, alors que l'État détient quand même encore 15% du capital de ADS.
Alors, en avril 2006, Lagardère et Daimler Chrysler cèdent 7,5% chacun de leur part à la Caisse des dépôts.
Non, alors pas tout à la Caisse des dépôts. Une partie, 2,25% je crois, est cédée à la Caisse des dépôts et consignations, mais c'est une minorité. La plupart va se retrouver dans le capital flottant, c'est-à-dire que là, c'est en vérité, on est dans la financiarisation de ADS, puisque ça va être acheté par une banque russe, ça va être acheté par des fonds spéculatifs. En fait, l'essentiel de ce qui est vendu, là, est récupéré par la spéculation. Mais effectivement, il y a ces 2% qui sont rachetés par la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations étant, on va dire, le bras financier de l'État, le bras qui investit de l'État. Donc là encore, en fait, c'est non seulement vraisemblablement l'État français a laissé se commettre un délit d'initié, puisque on savait qu'il y aurait des retards sur la 380 et on a laissé Lagardère le revendre, mais en plus c'est comme si on lui avait filé un coup de main pour lui racheter une partie de ses actions.
Le délit d'initié rapporte combien et à qui ?
On a beaucoup insisté sur le délit d'initié vraisemblablement commis par Noël Forgeard qui lui aurait rapporté 2,5 millions d'euros plus 400 000 euros à chacun de ses fils parce qu'il avait investi pour ses enfants aussi Noël Forgeard. Donc on a beaucoup insisté.
Bon père de famille.
Voilà. Il a jugé que c'était légitime à l'approche de la soixantaine. Mais bon, on a beaucoup insisté sur le cas de Noël Forgeard. Donc je rappelle, là je répète, ça se coûte en 2,5, 3 millions d'euros, quelque chose comme ça. Et derrière, ce dont on n'a pas parlé, c'est des 890 millions engrangés par le groupe Lagardère, des 890 millions engrangés par le groupe Daimler Chrysler.
Pas mal.
Bah, ça va, quoi. Ça permet de vivre.
Et au mois de juin 2006, le titre chute. C'est une perte de 26% du titre. Donc les actionnaires sont dindons.
Les actionnaires qui n'ont pas été mis au courant, parce qu'en fait...
Les non-initiés, parce que s'il y a des initiés, il y a des non-initiés.
Voilà, le 13 juin, il y a l'annonce des retards de la livraison de la 380, des problèmes sur la 380. Le 14 juin, immédiatement, le titre plonge de 26%. Effectivement, ceux qui ont eu l'information, qui ont disposé de l'information et qui ont pu revendre auparavant, ont fait la culbute, parce qu'auparavant, il y a eu des années et des années de hausse du titre ADS.
Europe 1, le grand direct, il est midi 5.
La justice est officiellement saisie de l'affaire du délit d'initié chez Airbus ADS.
Dans la matinée, le parquet a confirmé en effet avoir été saisi par l'autorité des marchés financiers, dont la note préliminaire accablante est révélée ce matin par nos confrères du Figaro. Elle semble confirmer que les dirigeants et les principaux actionnaires du groupe aéronautique étaient informés de longue date des retards de l'A380 et qu'ils ont profité de cette information encore confidentielle pour vendre massivement leurs titres au meilleur prix.
Alors, on continue avec le professeur François Ruffin, qui vous explique tout sur l'affaire EADS, Lagardère, etc. Auteur qu'il est d'un texte qui s'appelle « L'affaire Lagardère pour les nuls » que vous allez pouvoir retrouver sur le site de labas.org. François Ruffin, on vient de raconter une partie de l'histoire, mais ça n'est sorti, encore une fois, que ces jours derniers, au début de ce mois d'octobre, dans le Figaro. Donc, pendant 10 mois, l'affaire va roupiller doucement. Et il se trouve que ces 10 mois sont les 10 mois consacrés à la campagne présidentielle et aux élections présidentielles. Donc, il semblerait qu'on ait mis cette histoire de côté.
Oui, c'est-à-dire que pendant la campagne présidentielle, il faut dire les choses comme elles sont, autant on a pu parler du plan Power 8, autant un nom était complètement interdit d'antenne, c'est le nom de Lagardère. Ce nom n'était pas prononcé. Tous les problèmes qui étaient évoqués à ce moment-là, c'était des problèmes de double gouvernance franco-allemande, c'était des problèmes sur l'État qui se met dans les affaires privées et du coup ça crée des catastrophes. C'est Noël Forgeard qu'on a largement mis en avant, mais en revanche, Lagardère, il était interdit d'en parler. Il y avait eu une forme d'autocensure là-dedans, évidemment, mais il y a eu une forme de censure aussi. Puisque, par exemple, une personne qui était un économiste, qui était membre, un ancien membre de la Banque de France, quelqu'un de sérieux, d'habitué aux pages débat du Monde, et ainsi de suite, produit une tribune sur ce point, sur le problème de l'actionnariat privé au sein de EADS, elle sera jamais publiée dans Le Monde. Il l'adresse à Libération, et on lui répond quoi à Libération ? On lui répond qu'il y a un problème de panne informatique, qu'on peut pas publier le papier. Donc vous voyez, là, on est dans un moment où le nom de Jean-Luc Lagardère ou de Arnaud Lagardère, le nom du groupe Lagardère, ne doit pas apparaître à l'intérieur des médias. Alors que, à l'époque, déjà au printemps, pour comprendre qu'il y avait vraisemblablement un délit d'initié, pour l'apercevoir, il fallait pas être sorcier. Il n'y a eu aucun don de préscience quand j'annonce ça en mars. Mais simplement, c'était évident, quoi. C'était énorme, c'était devant tout le monde. Mais il y a eu un moment là où les médias ont refusé de voir les choses en face.
Vous en avez parlé, Canard Enchaîné aussi en a parlé quand même.
Et Marianne, il y a eu un petit papier dans Marianne.
En tous les cas, ça sort le 3 octobre 2007 dans le Figaro. Et là, on nous annonce que l'AMF, l'autorité des marchés financiers, c'est-à-dire le gendarme de la bourse, dénonce le délit d'initié. On est en octobre 2007.
Première surprise, peut-être. Hein. Bon, on peut croire au bon fonctionnement de la démocratie, au fait que l'information soit libre, et ainsi de suite. Mais pourquoi cette information sort dans le Figaro ? Le Figaro, c'est le journal de Serge Dassault. C'est-à-dire qu'on a Le Monde, qui est le journal d'Arnaud Lagardère, en gros. On a en face...
C'est pas le seul journal, hein.
Non, c'est pas le seul journal, loin de là. L'Humanité...
Paris Match, Canal Sat, Europe numéro 1.
Il y a des participations dans plein de médias, beaucoup de quotidiens régionaux aussi, ce qui explique sans doute le silence des médias longtemps là-dessus, et le silence aussi des politiques qui craignaient de fâcher avec Arnaud Lagardère. Mais là, ça sort pourquoi ? Ben, je pense que le but de Serge Dassault, qui rencontre de très grandes difficultés avec ses avions Rafale, c'est de récupérer les parts de Arnaud Lagardère à l'intérieur du groupe EADS, le Figaro, on lui laisse faire son travail journalistique, parce qu'il s'agit de déstabiliser Arnaud Lagardère. Enfin, je pense qu'on a affaire à une guerre au sommet entre deux avionneurs marchands de presse, alors que ces guerres intestines-là, finalement, il a fallu complètement les éteindre pendant toute la durée de la campagne présidentielle. Pendant la campagne présidentielle, quand on mentionnait que Nicolas Sarkozy était l'ami, voire le frère d'Arnaud Lagardère, que c'était un ami qui téléphonait quotidiennement à Martin Bouygues, que Bernard Arnault avait été le témoin du mariage de Nicolas Sarkozy, on était dans la démagogie. C'était insultant, on était populiste, vraiment ça se faisait pas. Et dès le soir de l'élection de Nicolas Sarkozy, on les a tous vus ressurgir, ils étaient bien planqués pendant le rideau pendant 6 mois, et on les a tous vus ressurgir au premier plan au Phuket. Et là, je dirais qu'aujourd'hui, maintenant que l'essentiel est assuré, maintenant que le candidat de la plutocratie du CAC 40 a obtenu ce qu'il désirait, ce que tous désiraient pour lui, maintenant qu'un certain nombre de mesures, que l'assurance santé va pouvoir être privatisée, enfin que le libéralisme peut triompher, bon, on peut reprendre les guerres intestines entre Lagardère et Dassault, par exemple, qui avaient été mises sous le boisseau le temps de la campagne électorale, quoi.
L'Airbus, ou A300, sera donc construit. Il fera son premier vol en 1971, mis en service en 1973. Il transportera près de 300 passagers à 700 ou 800 km/h sur courte distance. C'est un accord très important qui a été signé aujourd'hui et les trois pays se sont engagés dans cet accord pour que l'Airbus voit le jour et puisse effectivement être construit en série dans les années à venir.
Ce que vous dites quand même, cher professeur François Ruffin, c'est que, 890 millions d'euros de plus-value pour Lagardère et Daimler-Chrysler, 3,5 millions d'euros pour Noël Forgeat et ses enfants, c'est quand même pas mal. Et ce que vous nous dites, c'est que ce délit d'initié, eh bien, c'est une miette illégale dans un festin légal. C'est-à-dire que c'est rien, quoi. Tout ça, c'est des petites miettes, mais qu'il y a eu un enrichissement tout à fait légal d'un certain nombre de personnes, et vous allez nous dire lesquelles, depuis pas mal d'années. Pour ça, il faut revenir en arrière et raconter la merveilleuse histoire d'Airbus.
Je pense qu'il faut effectivement revenir à l'origine d'Airbus, donc dans les années, à la fin des années 60. Airbus, à ce moment-là, naît notamment du rapprochement entre deux entreprises, une entreprise en France et une entreprise en Allemagne, toutes deux entreprises publiques qui sont aérospatiales et MBB. Donc ça, c'est une impulsion d'une volonté politique. C'est les gouvernements de l'époque qui décident de lancer Airbus et qui mettent deux entreprises nationales au service de ce projet industriel. Pendant longtemps, ça va pas être rentable, loin de là, puisqu'on est dans le lancement d'un énorme projet, quoi.
On investit.
Les États investissent, ça coûte subvention et ainsi de suite. Et ça fonctionne plutôt bien entre les deux entités, à tel point que dans le cours des années 80, les PDG de MBB en Allemagne et donc Aérospatiale en France envisagent de fusionner leurs entreprises. Ça va pas se faire, pourquoi ? Ça va pas se faire parce qu'à ce moment-là, le vent libéral est déjà en train de souffler et il commence par souffler en Allemagne où Helmut Kohl procède à la privatisation de MBB. MBB est privatisé et est revendu à Daimler Chrysler. À partir de ce moment-là, à partir du moment où aussi un autre partenaire qui est un partenaire britannique, BAE, entre en bourse, c'est un peu aérospatial qui, jusqu'à l'heure, servait de modèle et qui finalement devient un peu marginalisé dans le processus puisque on a deux entreprises privées, deux entreprises cotées en bourse et une entreprise qui est demeurée une entreprise nationale. Et là, il y a toute une campagne idéologique qui est orchestrée à la fois par les économistes, à la fois par les dirigeants des autres entreprises, par un certain nombre de groupes industriels et de groupes médiatiques en France qui disent une entreprise nationale, ça ne peut pas durer. Et bon, par exemple, dans Le Monde, ça se traduit par cette phrase au moment où va se faire la privatisation. Il s'agit de se débarrasser le plus vite possible de l'image d'entreprise étatique d'aérospatiale, souvent utilisée par ses concurrents pour la dénigrer. Il s'agit de s'en débarrasser de cette entreprise nationale d'autant plus vite que là, les profits ont commencé à être engrangés. C'est-à-dire jusqu'alors, c'était des pertes, c'était peu de ventes d'avions et beaucoup d'investissements. Là, à ce moment-là, Airbus détient 35% des ventes d'avions au niveau international. Ça devient une entreprise rentable. On appelle même Airbus une mine d'or. Donc à partir du moment où c'est une mine d'or, eh ben ça ne doit plus être une entreprise nationale.
C'est-à-dire que les investissements, les dépenses ont été collectives, relève du public, et maintenant il est temps de privatiser les profits. C'est aussi cynique que ça, selon vous.
Ah oui, selon moi, c'est aussi cynique que ça, évidemment. Enfin, c'est évidemment sous couvert de bon fonctionnement. Il va y avoir un meilleur fonctionnement avec le privé, il va y avoir des stratégies nouvelles qui vont pouvoir être en place. Et
c'est une musique de fond depuis pas mal d'années.
Exactement. Donc, bon, on va pouvoir vérifier avec Aérospatial quel est le bon fonctionnement du privé. Et là, c'est le gouvernement de Lionel Jospin, avec Jean-Claude Guessot, ministre communiste, qui lance la privatisation de Aérospatiale. Donc il y a une première fusion qui intervient, qui est une fusion entre Aérospatiale et Matra. Matra, le groupe de Jean-Luc Lagardère, qui pourtant jusqu'à là n'opérait pas du tout dans les avions civils. Il faisait que du militaire, Matra.
Pour l'industrie aéronautique mondiale, c'est un événement sans précédent. La fusion du groupe français aérospatial Matra avec la filiale aéronautique d'ASA du groupe Daimler Chrysler crée le numéro 3 mondial dans cette catégorie, représentant 89 000 personnes. Le contrat de fusion a été signé aujourd'hui à Strasbourg avec comme invité surprise Gerhard Schröder et Lionel Jospin.
Chef de gouvernement et grand patron, le public et le privé réunis pour des poignées de main historiques, le français aérospatial Matra et l'allemand DASA fusionnent.
Aussi le succès d'aujourd'hui illustre-t-il le rôle irremplaçable de la coopération franco-allemande comme moteur de la construction européenne.
Le nouvel ensemble s'appellera EADS, la première société européenne pour l'aéronautique, la défense et l'espace. Avec 130 milliards de francs de chiffre d'affaires, ce sera le numéro 3 mondial du secteur, derrière les Américains Lockheed Martin et Boeing McDonnell Douglas.
Alors, ce qui est intéressant de signaler, c'est que le gouvernement Jospin va faire deux cadeaux à Lagardère. Il va faire un premier cadeau financier, un petit rabais.
C'est quand ça ?
Ça, c'est en 99. En 99, donc première fusion entre Aérospatiale et Matra, deux cadeaux du gouvernement Jospin. Premièrement, 4 milliards de francs, une petite ristourne quoi, sur les parts de Lagardère au sein de Aérospatiale Matra. Et deuxième chose, alors que Lagardère est loin de détenir la majorité des parts, c'est lui qui va être à la tête de l'entité et l'État va se retrouver interdit de gestion. L'État est interdit de gestion. Il va y avoir une nouvelle fusion l'année suivante, cette fois-ci entre Aérospatiale Matra et Daimler-Chrysler pour provoquer le groupe EADS maintenant. Et là, à nouveau, alors que l'État détient 15% des parts, il est interdit de gestion, toujours sous le gouvernement Jospin, et c'est Jean-Luc Lagardère qui représente les intérêts de l'État.
Mais alors, vous dites, ce délit d'initié qui intéresse tout le monde et qui en scandalise quand même beaucoup, et je répète vos propres mots, des miettes illégales à côté de ce que vous décrivez maintenant, un festin très légal, ce festin très légal remplit quel ventre ? Qui profite de ce festin légal ?
Mais il va remplir les ventres de Lagardère et de Daimler-Chrysler notamment et d'un certain nombre d'actionnaires privés. Mais je pense qu'il faut montrer comment s'installe un esprit complètement différent qui est plus du tout tourné vers le projet industriel à partir du moment où la société est privatisée. La première chose que déclare Philippe Camus, qui est nommé président de Aérospatiale Matra, qu'est-ce qu'il déclare à ce moment-là ? Il déclare que l'objectif va être de faire passer la marge d'exploitation de 4 à 8% en 5 ans. L'entreprise n'existe pas encore, que son objectif principal n'est pas de fabriquer des nouveaux avions, moins pollueurs, ainsi de suite, mais c'est d'augmenter la rentabilité de l'entreprise, de passer de 4 à 8%. Immédiatement après, il va se créer au sein de EADS un pôle de compétences financières dont l'objectif est d'affirmer la priorité de la création de la valeur pour l'actionnaire. Voilà, l'objectif maintenant central de EADS, c'est de produire de la valeur pour l'actionnaire. Et bon, les promesses vont être tenues en un sens, parce qu'il va y avoir 5 années de dividendes exceptionnels, des bénéfices qui vont doubler, l'action va prendre 70% en 5 ans, alors que dans le même temps, la Bourse de Paris, le CAC 40, baissait de 30%. C'est une moisson pour tout le monde. Pour les dirigeants d'Airbus qui se votent en conseil d'administration des augmentations tous les ans de 14%, 22% et ainsi de suite, c'est une moisson pour les actionnaires évidemment en termes de bénéfices et puis pour en termes de stock options et ainsi de suite.
Et les salariés là-dedans ?
Alors les salariés, ça va être autre chose. Pour donner un exemple, il va y avoir un programme de rachat d'actions au sein de EADS. Rachat d'actions, ça veut dire qu'à la place d'investir dans l'entreprise, on décide de racheter des actions pour détruire le capital. On procède à une destruction de capital, tout simplement. Et là, ce projet-là, il est à hauteur de 7,8 milliards d'euros. C'est le projet. Et dans le même temps, que déclare Louis Gallois quand il met en place le plan Power 8 ? Il déclare qu'il faut vendre des sites, notamment le site de Méholt en France, parce que les investissements totaux nécessaires au passage aux matériaux composites représentent 500 à 600 millions d'euros. Nous ne pourrons pas les réaliser nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il dit, EADS ne pourra pas réaliser 500 à 600 millions d'euros et dans le même temps fait pour les actionnaires un programme de rachat d'actions à hauteur non pas de 500 ou 600 millions d'euros, mais de 7,8 milliards. Vous voyez un peu, c'est non seulement pour les salariés que ça ne va pas, mais c'est pour l'entreprise qu'on n'investit plus, quoi.
Un hall gigantesque pour le baptême du plus gros avion du monde. 5000 invités, clients et partenaires d'Airbus. Un spectacle qui retrace le rêve de l'homme volé. Côte à côte, Jacques Chirac, Tony Blair, José Luis Zapatero, Gerhard Schröder, image d'une Europe industrielle unie. Symbole d'avenir, ce sont des enfants qui dévoilent l'Airbus A380 encore dans la pénombre.
C'est une magnifique création humaine, c'est une prouesse technique et c'est une très grande réussite européenne.
Les chefs d'État et de gouvernement sont radieux. Le succès d'Airbus incarne la force de la construction européenne. C'est un message porteur aussi dans la campagne pour le référendum de la Constitution européenne.
Bah, formidable, non ? Moi, je suis enthousiasmé, là. Je croyais que ça continue, la musique. Je viens de me réveiller, là. J'ai l'impression de me réveiller après ça.
Bah oui, là, on a bien vu l'instrumentalisation en 2005 du décollage du premier A380. Il faut savoir que dans le même temps, c'est à ce moment-là que se déroule la guerre interne, les guerres fratricides entre les Lagardère Boys, puisqu'on les appelle comme ça, Forjard, Camus, Delma, Gut, qui débouche sur l'affaire Clearstream. Donc c'est à ce moment-là que ça se déroule sous la beauté de cette archive. C'est à ce moment-là aussi qu'il y a les défauts de câblage qui démarrent sur l'A380. Donc, alors, on transforme ça en image de l'Europe. C'est intéressant parce qu'effectivement, je crois que Airbus peut être considéré, de fait, comme une image de l'Europe. Comme une Europe qui est née pour Airbus dans les années 60-70, parce qu'il y avait une volonté politique de construire un projet industriel. On sait que l'Europe s'est largement libéralisée ensuite, que maintenant ça doit devenir le royaume de la concurrence libre et non faussée, que c'est répété d'un traité à l'autre et que ça sera vraisemblablement présent dans le mini-traité qui reprendra le référendum européen pourtant rejeté. En France, c'est le royaume de la libre circulation des biens et des capitaux et ainsi de suite. Dans ce contexte-là, on n'est pas surpris que le symbole de l'Europe appartiennent désormais à Lagardère et à Chrysler, qui est un enrichissement massif, que ça se fasse au détriment des salariés, qu'aujourd'hui ça soit passé quasiment d'acteurs industriels vers des acteurs spéculatifs. Il faut savoir que j'ai été sur le site du ministère français de l'industrie, qui signale que le terme même de politique industrielle est banni du débat communautaire. C'est-à-dire que Airbus s'est construit parce qu'il y avait une politique industrielle, parce qu'il y avait une volonté industrielle. Et aujourd'hui, utiliser ce mot-là sur le plan européen, c'est devenu interdit. Enfin, dernier symbole de cette Europe, de cette corporate Europe, on va dire, c'est que le siège de la société EADS ne se trouve pas en Allemagne, ne se trouve pas en France.
Amsterdam.
Il se trouve à Amsterdam. Pourquoi Amsterdam ? Parce qu'en Hollande, il n'y a quasiment pas de taxation sur les plus-values.
Plus qu'un simple plan de restructuration, c'est une cure de minceur que Louis Gallois va faire subir à Airbus. Il le sait, ce qu'il a à annoncer va déclencher un cataclysme.
Nous avons les pieds sur terre, nous ne sommes pas dans une période de rêve. Et nous devons faire notre travail.
Et le travail, c'est un traitement de choc. Un emploi sur cinq supprimé, c'est du jamais vu pour l'avionneur européen qui va se séparer de trois sites de production dont celui de Saint-Nazaire. Airbus n'exclut pas à terme de vendre aussi l'usine de Méholt dans la Somme. Objectif de ce plan, économiser 2 milliards d'euros par an à partir de 2010.
We are doing this evolution under the pressure of
events. Nous menons cette évolution sous la pression des événements. La faiblesse du dollar, les difficultés de la 380, le financement de la 350, etc. Mais nous aurions dû faire cela il y a de nombreuses années.
La pression des événements.
Là, il cite les difficultés de la 380, la 350 et le dollar. Ce qui me paraît essentiel, en fait, c'est à mon avis la principale révélation de mes recherches, c'est que ce plan Power 8, qui est présenté aujourd'hui comme étant conjoncturel, comme étant le résultat d'événements, d'une dégradation temporaire de l'activité, est en fait prévu depuis de nombreuses années, et en tout cas prévu depuis 2005. Ce qu'on découvre en lisant les rapports financiers de EADS, parce que je me suis plongé dans les rapports financiers de EADS, et je dirais que c'est là que c'est vraiment intéressant, parce que autant quand on est en public pour la presse, pour les salariés, pour les hommes politiques et puis tout ça, on va avoir un discours sur la valeur, sur les valeurs, sur, vous voyez, on est gentil, on a un discours un peu hypocrite, on cherche à assurer l'avenir de l'entreprise, ainsi de suite. C'est plus clair à l'intérieur des rapports financiers.
C'est plus cru, oui.
C'est plus cru, c'est plus clair, on parle aux actionnaires, et voilà ce qui se raconte dans le rapport 2005. Une année exceptionnelle. On nous dit la rentabilité de EADS a atteint de nouveaux sommets. Pour une troisième année consécutive, une augmentation de dividendes est proposée. Une année record en termes de livraison, de commandes et de rentabilité. Voyez donc, 2005, année exceptionnelle. Pourtant, qu'est-ce qu'on découvre dans le même rapport ? On découvre que c'est pas suffisant. Il s'agit de dégager une meilleure rentabilité dans la catégorie, une meilleure rentabilité de l'entreprise, de faire progresser la performance opérationnelle de EADS en termes de coûts, d'optimiser la rentabilité de notre carnet de commandes. Et donc, à ces fins, le groupe opte pour une stratégie claire, l'internationalisation. Qu'est-ce que ça veut dire, l'internationalisation ?
Délocalisation.
Et voilà. Mais on nous l'explique ensuite. On nous dit, ben voilà, chez EADS, toujours dans le même rapport, hein, 2005, une année exceptionnelle, une année où tout va bien. 95% des salariés sont localisés en Europe, 75% des sous-traitants sont localisés en Europe, et ça, ça va pas. EADS prévoit de devenir un solide acteur industriel dans certains pays clés, comme les États-Unis, la Chine, la Russie, la Corée du Sud et l'Inde. Le procurement, marketing and global sourcing est d'autant plus important que EADS cible de nouveaux marchés d'approvisionnement afin d'alimenter sa stratégie industrielle mondiale, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, en fait, on programme des délocalisations, mais qui n'ont rien à voir avec le fait que l'entreprise n'aille pas bien. L'entreprise va bien, mais il faut délocaliser pour réduire les coûts.
Réduire les coûts pour satisfaire les actionnaires.
Exactement, réduire les coûts pour satisfaire les actionnaires. Et non pas l'économiste Eli Cohen qui s'en satisfait va par exemple dire « Dans l'A350, la part de valeur développée et fabriquée en Europe tombera aux environs de 50%. » C'est-à-dire qu'on était à 95%, 75%. Maintenant, dans le nouvel avion, l'A350, on va tomber à 50%. Donc, vous voyez, il s'agit maintenant de délocaliser la moitié de la production du prochain avion. Et tout ça, pourquoi? Si ça serait pour sauver l'entreprise, c'est très bien. Mais le directeur de financier, Hans-Peter Ring, l'affirme lui-même. Il ne faut pas que la rentabilité risque d'être en décalage sensible par rapport aux standards de l'industrie et aux attentes légitimes des actionnaires. Donc il faut que la rentabilité, elle soit, on va dire, de 15%, puisque c'est la norme qui a été établie dans la plupart des industries. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'on nous a présenté le plan Power 8, les ministres ont insisté là-dessus, les dirigeants...
Le plan Power 8, il faut rappeler, c'est 10 000 licenciements. Hein.
10 000 licenciements, tout ça, c'était, d'après les ministres, d'après tout le monde, un plan équilibré, équitable, nécessaire. Enfin, c'était une nécessité absolue pour sauver l'entreprise. Or, en lisant le, c'est déjà présent en 2005, à un moment où il n'y a pas du tout de problème dans l'entreprise.
Changement d'équipe à 13h30. La plupart de ceux qui ont commencé à 4h du matin apprennent la nouvelle, mais il y a peu de monde pour la commenter.
Je suis pas trop au courant, enfin je suis pas trop les actualités. Donc.
D'autres ont écouté la rumeur qui s'est doucement propagée dans le site et elle est arrivée aux oreilles de Bernard.
C'est affligeant.
C'est des affreux. L'argent prime sur tout et surtout sur notre travail à nous. Le pire, c'est que ça va sûrement encore nous retomber dessus, à tous les coups, non? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, nous, à notre niveau? C'est fini, on est ouvriers.
Ce n'est pas la première fois que les salariés de Méholt ressentent ça. Xavier se souvient du parachute doré offert à l'ancien PDG d'Airbus, Noël Forgeard.
Si jamais c'est ça, bah c'est dégueulasse par rapport à nous, quand même. Surtout qu'en plus, on devait avoir le nom du repreneur et plus ça va, plus ça recule, donc on ne sait pas trop où on va. Et ce qu'ils ont touché comme bénéfice et tout ça, bah qu'ils les remettent dans la société afin qu'on puisse peut-être enflouer. Et puis j'espère qu'ils seront punis, ces gens-là.
Fabien, un jeune cadre d'Airbus, espère aussi cette punition, mais il veut calmer le jeu.
Il y a des tribunaux et des mesures qui sont faites pour ça. On fait confiance au gouvernement et à ses sous-fifres. Tant qu'il n'y a pas de fondé, faut être comme Saint-Thomas, on croit ce qu'on voit. Et il y a déjà assez de crise chez Airbus en ce moment, ça ne sert à rien de polémiquer.
Pas de polémique ni de mouvement dur. Les syndicats de Méholt sont eux aussi restés très prudents hier. La priorité reste la même, connaître le prochain partenaire industriel du site.
Mais il y a quand même des voix dissidentes là-dedans. Qui dénonce et qui s'oppose?
Moi, je suis... Enfin, on peut être surpris par la très faible mobilisation autour de cette affaire. La très faible mobilisation des syndicats...
Bah oui, 10 000 postes en moins quand même. Hein.
10 000 postes en moins en Europe, 4 300 en France. Et surtout, il faut le rappeler, dans un secteur qui se porte bien. Parce que il faut avoir en tête cette musique constante qui a été celle des années 80-90, où dans tous les rapports parlementaires, où dans chaque fois qu'il y avait une commission qui était nommée sur l'industrie, on venait nous dire, dans l'habillement, oui, on délocalise, dans le textile, oui, on délocalise, dans la métallurgie, oui, on délocalise, mais regardez, il y a Airbus, c'est la voie de l'avenir, c'est l'aéronautique, et là-dedans, bon, voilà, c'est
l'industrie
sûr.
L'industrie de pointe, etc.
Exactement. Et bon, et même dans cette industrie-là, dans une industrie où on sait qu'il va y avoir de la demande, et je dirais malheureusement pour la planète, puisqu'il y a une croissance, une explosion du nombre de voyageurs par le trafic aérien tous les ans, où le carnet de commandes d'Airbus est plein encore pour cette année, où il y a eu une augmentation l'an dernier de 14% du chiffre d'affaires d'Airbus, donc c'est pas du tout une entreprise en crise, on accepte que finalement il y ait en parallèle 10 000 licenciements en Europe. Donc comment expliquer ça? Il va y avoir un patriotisme d'entreprise. C'est-à-dire que autant pour les dirigeants d'Airbus, EADS, c'est un tiroir caisse dans lequel ils peuvent venir piocher librement. Autant il va y avoir un attachement sincère, une certaine fierté d'appartenir à l'entreprise qui est devenue l'un des leaders de l'aéronautique mondiale chez les salariés. Et quand on leur dit, quand on leur répète qu'il s'agit de sauver la... Eux, ils sont gentiment prêts à consentir des sacrifices.
La rumeur du monde, Jean-Claude Casanova, Jean-Marie Colombani, le sort d'Airbus.
C'est un problème de compétitivité qu'il faut comprendre. Alors là, on se heurte à cette difficulté spécifiquement française, c'est que si vous êtes aux États-Unis, si vous êtes en Angleterre, si vous êtes dans le monde financier et que vous dites « je dois restructurer parce que le marché ne correspond pas, les choix que nous avons faits, il y a eu telle et telle erreur d'investissement, donc il faut restructurer, donc il faut une réduction d'emplois ». Aux États-Unis, les syndicats eux-mêmes applaudissent. Les marchés financiers approuvent, tout le monde trouve ça normal et c'est la preuve du dynamisme de l'entreprise. Et je trouve que depuis 10 ans, on devrait quand même mieux éclairer l'opinion française et lui faire comprendre que c'est la condition de la compétitivité.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de contre-expertise. Il n'y a pas eu une voix qui est venue dire bah « non, ce n'est pas nécessaire, c'est une délocalisation alors que votre entreprise est rentable ». Alors là, pour quelles raisons ? Bon, les économistes affiliés qui écrivent régulièrement dans les médias ont suivi ce que les éditorialistes des médias écrivaient déjà, à savoir que c'était un plan nécessaire, équilibré et équitable. Du côté de l'opposition, les socialistes sont quand même plus que gênés aux entournures. Déjà, ils ont un discours qui n'est pas très clair. Ils parlent qu'il fallait anticiper la crise, qu'il va falloir moraliser la vie publique, qu'il s'agit de créer une agence nationale de réindustrialisation. Enfin, vous voyez, il y a tous des programmes un peu fumeux. Dominique Strauss-Kahn et Lionel Jospin font paraître une tribune dans Le Monde au printemps dernier, dans lequel n'apparaît pas le nom de Lagardère. Et, je veux dire, ils sont plus que gênés aux entournures, puisque c'est eux, finalement, qui ont fait entrer le loup dans la bergerie. Je veux pas dire que c'est eux qui ont privatisé Airbus, qui l'ont confié à Lagardère. Ils ont fait entrer le loup dans la bergerie. Ils lui ont dit « faites comme chez vous », ils lui ont donné les clés. Et puis maintenant, il faudrait qu'ils regrettent que le loup ait dévoré les brebis. Ben non, ça se passe comme ça, quoi.
La grève pour Force Ouvrière n'est plus d'actualité. Pour Force Ouvrière, l'inquiétude est levée sur Méholt.
Reste dans le tronc de l'arbre, on reste Airbus. Et ça, c'était primordial pour nous, parce qu'on ne voulait pas être vendu, on ne voulait pas être cédé, on ne voulait pas filialiser. Et aujourd'hui, donc la non-vente, on reste dans le giron Airbus, et ça, c'était primordial. Alors après, même s'il y a des soucis, parce qu'on ne peut pas dire que Airbus n'a pas de soucis, les organisations syndicales, on se mettra à la table des négociations, on essaiera de trouver au maximum les solutions pour l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt des salariés.
Le dernier point,
les syndicats.
L'un des points noirs, c'est du côté des syndicats. Par exemple, à Méholt, dans la Somme, c'était en direct de Toulouse. Il y avait une réunion avec les délégués syndicaux là-bas. Et on attendait la réponse pour savoir si le site de Méholt allait être filialisé devant les grilles de l'usine. Force Ouvrière arrive et déclare, ça y est, on a gagné, on va rester Airbus, on est content, c'est vachement bien ce qui se passe. Et puis tout ça, il y a peut-être des problèmes dans l'entreprise, mais on va les résoudre et tout ça. Or, tous les journalistes qui ont l'AFP, tous ceux qui ont un œil sur ce qui se passe à Toulouse, voient que c'est le contraire qui vient d'être annoncé, que Méholt est clairement filialisé. Mais l'objectif pour Force Ouvrière, à ce moment-là, n'est pas de mener le combat. Il a été de faire rentrer les salariés à l'intérieur de l'usine et de les faire retravailler normalement comme si rien ne se passait. Quoi.
Vous êtes content, il faut vous entendre.
Mais les grèves qui se sont produites à Saint-Nazaire se sont produites quasiment sur Force Ouvrière qui signait un retour au travail pendant que les salariés, eux, faisaient grève. Enfin, c'est un résultat historique. En 1968, la CGT est majoritaire à Sud Aviation. Et c'est un syndicat de lutte. Maurice Papon, qu'on connaît par ailleurs, est le président de Sud Aviation. Il a pour objectif de casser ce syndicat de lutte, de casser la CGT dans un secteur sensible. Il casse la CGT et il installe Force Ouvrière, à l'époque à la place. Et là, il y a clairement un syndicat de lutte qui est remplacé par un syndicat de co-gestion. Les salariés de Airbus Méholt me racontent comment, quand ils entrent à Airbus, le cadre les appelle et leur dit « Bon, ben voilà, hein, si tu veux avoir de la promotion dans l'entreprise, il y a le délégué syndical FO, c'est par lui qu'il faut passer, il va te faire ta carte. » Et la carte, elle est faite en un quart d'heure, quoi.
Et la morale dans tout ça ?
Oh, la morale n'est pas, comme vous le savez, quelque chose dont on traite quotidiennement, ni en politique, ni dans les affaires. Eh bien, écoutez, c'est Ernest-Antoine Sellière, puisque vous voulez que je me présente. La morale, elle est individuelle, et vous me permettrez d'en rester là.
Vraiment, on en reste là ?
Tout à fait.
Bon, c'est dommage, parce qu'il y a quand même un vrai problème, non, derrière tout ça ? Entre quelques euros de dividendes pour les uns et des millions d'euros de parachutes pour les autres, c'est quand même plus qu'une question de morale individuelle, non ? Je vous pose la question, hein, monsieur Sellière.
Non, mais bien sûr, mais moi je vous réponds en tant que responsable, je dirais, d'un ensemble européen, et je dis que les Européens, d'une manière générale, ne ressentent pas l'émotion que vous semblez ressentir vous-même face à ces réalités-là. Ils s'intéressent de savoir si nous aurons en Europe une croissance à 3% qui permettra en effet de faire de la croissance et de l'emploi et de mettre en place ce qu'on a appelé l'agenda de Lisbonne, c'est-à-dire une vraie compétitivité européenne face à l'Inde, à la Chine, au Japon, aux États-Unis, à la Russie et au Brésil, d'immenses entités mondiales. Nous avons besoin de nous organiser pour cela.
vous laisse un peu déguster cette musique. Voilà, merci à tous, merci à François Ruffin. Alors, donc, comme promis, le texte, l'affaire Lagardère pour les nuls sera dans les heures qui suivent sur le site labas.org, la-bas.org. Et puis, vous pouvez lire les papiers de Ruffin dans Le Monde diplomatique de mai dernier. Voilà, et dans Fakir, qui est le journal de François Ruffin. Airbus, le syndicat s'écrase. Tout ça, c'était en mars, avril et mai dernier. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, ainsi donc sur le site là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Michel Bézikian et Olivier Rieutor, Yann Chouquet et Coyenne Guyen ont réalisé cette émission, et Charlotte Perry attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37. Encore un petit peu de musique et ben ouais, c'est la pub.